Chapitre 5. L'écureuil aimait trop son métier pour rester inactif en cette triste occasion qui réclamait impérieusement son zèle et son habileté. Il prit sa course pour devancer la foule des marchands qui se dirigeaient vers le lieu du crime. Arrivé à la porte, il barra le passage. « Halte ! » cria-t-il. « Trop de monde dans la maison ferait à coup sûr disparaître les traces que doit relever la justice. » Il ferma la porte au nez de la foule en donnant au portier la consigne de ne laisser entrer que le commissaire de police et un médecin qu'un marchand voisin de Renault était allé chercher et qui accoururent aussitôt. La porte de la chambre fut ouverte par un serrurier et le malheureux mari et sa fille purent pénétrer dans le logement où les attendait un affreux spectacle. La victime était toujours étendue à cette même place où la mort était venue enfin l'abattre. On devinait, au seul aspect de la chambre, que la lutte avait dû être longue et acharnée pour tuer cette créature énergique et forte qui gisait inerte. Du sang sur le parquet, du sang sur les meubles, partout du sang. Sur la muraille paraissaient, encore fraîches et rouges, les empreintes laissées par la mère quand elle avait voulu aller au secours de sa fille. Le corps n'avait pas eu le temps de se refroidir. On le porta sur le lit dans la pièce voisine. Alors, on s'aperçut du vol. Dans cette chambre, tous les meubles fracturés étaient vides de leurs tiroirs, jetés à terre. Partout, les doigts ensanglantés des assassins avaient laissé des traces, bien que les rideaux et les draps de lit prouvassent qu'ils s'y étaient essuyés les mains. Monnaie, bijoux, argenterie, tout avait disparu. Mais qu'importait le vol aux deux survivants de l'horrible drame? Assis sur une chaise, Renaud, à demi-fou de désespoir, restait immobile et muet. De silencieuses larmes coulaient de ses yeux fixés sur le corps de la défunte. À genoux, à ses pieds, la fille cachait sa tête dans le sein paternel pour ne pas voir le cadavre, et de déchirants sanglots alternaient avec ce seul mot que l'enfant peut trouver dans son immense douleur. « Maman, maman !» Navré par ce désespoir poignant, le commissaire faisait silencieusement son enquête, aidé de l'écureuil. Quand ce dernier arriva devant les meubles forcés, il examina soigneusement la fracture. « Oh, des malins !» se dit-il. L'audace du crime excitait l'amour-propre du brave agent de police. « Il faut que je les retrouve !» se répétait-il. « Ces deux coquins sont des gibiers de guillotine !» Autorisé par le commissaire à commencer ses recherches, l'écureuil se retira au moment où ce dernier interrogeait doucement Renaud sur l'importance du vol. On avait pris 270 francs en or, 460 francs en pièces de 100 sous, un sac d'une centaine de francs en petite monnaie et environ pour une valeur de 400 francs en argenterie et bijoux. Deux titres de rente nominative avaient été dédaignés par les assassins. L'écureuil quitta le logement et arriva sur le palier. Les pas sanglants s'y trouvaient empreints nets et pleins. Mais à mesure qu'il s'essuyait en descendant l'escalier, les marques en devenaient moins distinctes. Baissé sur ces sinistres traces, l'agent les examinait avec soin. « Tiens, se dit-il, un des sacripants avait un soulier dont la semelle faisait soufflet en dedans. En effet, un pas offrait cette particularité que sa teinte, à peu près égale pour toute la semelle, était bordée à gauche d'une teinte tant plus épaisse. Ses pas devaient provenir d'une chaussure dont la semelle décousue avait absorbé le sang par les différents feuillets de cuir entrebâillés. Et la marche, en appuyant sur ces feuillets, leur avait fait rendre le sang comme par un jeu de soufflet. Au bas de l'escalier, les pas ne marquaient plus. Nulle trace non plus dans l'allée. Les semelles, essuyées par les marches, cessaient d'imprimer leur passage. L'écureuil se trouva donc en face de la porte fermée derrière laquelle on entendait les murmures de la grande foule massée devant la maison. Avant d'ouvrir, le policier se prit à réfléchir. Ont-il tourné à droite ou à gauche, se dit-il. Cherchons un peu. Les coquins, sous l'émotion de leur crime, n'avaient plus leur sang-froid. N'ayant d'abord d'autre idée que de fuir cette maison, oh, ils ont dû tourner machinalement, involontairement, quitte à retrouver leur chemin plus tard et plus loin. Donc, quel est le mouvement le plus naturel à l'homme qui tourne machinalement? Par habitude, c'est toujours la droite qui donne le mouvement le plus commode, le plus violent et le plus développé. Donc, machinalement, on pivote sur la jambe gauche. « Oh, mes coquins ont dû tourner à gauche. »« Ah, ben, parbleu, voici quelque chose qui me prouve que j'ai raison. » Le policier, sur le mur de gauche, tout dans l'angle de la porte, venait d'apercevoir une tache rouge à hauteur de poitrine d'homme. « Oh, en fuyant, se dit-il, l'un d'eux aura voulu tourner trop court et sera venu frôler l'angle de son vêtement ensanglanté. Bon, c'est bien décidé, je vais tourner à gauche. » L'écureuil ouvrit la porte, et sans répondre à aucune des questions de la foule qui stationnait, il prit à gauche et remonta dans la direction du boulevard. À 100 mètres de là, il vit un jeune commissionnaire assis sur ses crochets, le nez en l'air et dévisageant les passants. L'écureuil l'aborda brusquement. « Ah, ça c'est affreux !» lui dit-il à brûle-pourpoint. Le jeune homme comprit de suite qu'on ne pouvait lui parler que du crime qui, répétait de porte en porte, épouvantait tout le quartier. « Oh, une si bonne femme !» répondit-il. « Quelles infâmes gredins !» reprit l'écureuil. « Oh, ne m'en parlez donc pas. Pour un rien, je m'arracherais le nez de fureur, en pensant que je pouvais les arrêter, quand ils sont passés devant moi. « Vous les avez donc vus ?» s'écria vivement le policier mis en éveil. « Comme je vous vois, un petit et un grand, tous deux à favoris. » Ils remontaient au pas de course vers le boulevard et en courant, ils ont failli renverser une dame. Au moment du choc, j'avais entendu tomber quelque chose qui rendait un bruit argentin. La dame aussi. Nous allions chercher ce que c'était quand de l'autre côté de la rue, voilà un passant qui crie aux hommes. « Hé, là-bas, vous perdez votre argenterie !» « Tenez, voyez là, à côté de la sellette du commissionnaire !» Et avec sa canne, sans traverser la chaussée, il indiquait l'endroit. C'était vrai, une petite cuillère en argent était venue tomber près de ma sellette. En attendant, les deux hommes s'étaient arrêtés, ils avaient pris l'air d'hésiter pour revenir ramasser leur objet. Enfin, le moins grand s'est décidé, il est revenu à la hâte, il a sauté dessus, puis il a repris sa course, pour rejoindre l'autre qui filait grand train. En le voyant fuir, j'ai dit à la dame bousculée, qui s'était arrêtée pour regarder aussi, « Oh, ils m'ont l'air de deux filous. J'aurais bien fait de les arrêter. » Et le commissionnaire, cela comptait, se prit les cheveux à plein doigt en criant, « Fouche-toi, oui, oh, j'aurais bien fait de les arrêter, ces infâmes gueux. » « Ainsi, il fuyait du côté du boulevard ?» demanda l'écureuil. « Mais comme des cerfs !»« Vous n'avez rien remarqué de bien particulier dans leur mise à tous deux ?»« Ma foi non, je me rappelle seulement que le petit avait une redingote brune. » L'écureuil reprit sa route en monologuant. « Les assassins n'ont pas dû gagner le boulevard où la foule des passants aurait remarqué leur allure effarée. » Ils ont préféré se jeter dans une rue à peu près déserte, la première trouvée, celle-ci par exemple. L'agent était arrivé au coin de la rue Notre-Dame de Nazareth. Il s'arrêta et reprit son monologue. Deux hommes qui viennent de faire un crime pareil sont sous le coup de la fièvre et de la peur. L'une qui paralyse ou casse les jambes et l'autre qui dessèche la gorge. Ils éprouvent le besoin de boire et de s'asseoir. Et ils donnent satisfaction à ce besoin dès qu'ils peuvent se croire en sûreté. Or, ils ont dû se penser sauvés. Quand il y a une demi-heure, ils sont entrés dans cette rue qui, brûlée par le soleil, devait être déserte à ce moment-là. À cette heure, la rue n'était plus déserte. Par groupe de 3 ou 4 personnes sur le trottoir, les habitants causaient du crime qu'ils venaient d'apprendre. Mais ils ont dû s'arrêter et boire dans cette rue. Bon. Explore les marchands de vin, se dit l'écureuil en entrant dans la rue. Au 10e pas, il s'arrêtait devant un débit de vin à devantures larges et vitrées. Bon, ils n'ont pu boire au comptoir d'une salle aussi ouverte, pensa-t-il. Il entra dans la boutique. Le marchand de vin était au comptoir. Avez-vous un cabinet particulier ? Non, monsieur. Bon, merci du renseignement. Et il sortit en laissant le commerçant surpris du laconisme de ce monsieur, à la fois si curieux et si peu causeur. L'écureuil suivit le trottoir, longeant les groupes qui causaient du meurtre. Dans l'un d'eux, une voix se fit entendre. « Venez donc écouter Madame Rollin, elle dit que les monstres étaient chez elle il n'y a pas 20 minutes. » Ils coururent tous vers un groupe plus nombreux qui se tenait à 10 mètres plus loin. « Allons aussi écouter Madame Rollin, » pensa l'écureuil en suivant. « Oui, j'étais tout à l'heure chez moi, dans ma boutique, » répétait Madame Rollin aux voisins assemblés devant son établissement. L'écureuil leva les yeux et lut sur l'aventure « Café Rollin ». L'agent se mit à sourire en murmurant « Je le disais bien, boire et s'asseoir ». Il examina la devanture du café garni de rideaux soigneusement tirés qui protégeaient les consommateurs contre les regards indiscrets du dehors. Oh oui, continua-t-il, ils pouvaient se croire cachés par les rideaux. Ah, ils ont dû entrer dans ce café. Et il pénétra alors dans le groupe en se disant je crois que je vais apprendre quelque chose d'intéressant sur mon gibier. Attendez donc, attendez, continua Madame Rollin. Ils vont vite se mettre dans le coin le plus obscur, là, une table, sous la cage de l'escalier, et puis les voilà qui se plantent, là, le nez sur la figure de l'autre, et qui se mettent à causer tout bas. « Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien se dire ?» demanda un voisin. « À coup sûr, ils ne parlaient pas de la prochaine coupe des foins. On dit du prix des papiers peints. » Pour causer, ils s'appuyaient sur le coude en tournant le dos au jour, de sorte qu'il faisait face à la porte vitrée de mon arrière-boutique, où justement j'ai eu l'ouvrière. Je file donc par l'office pour aller la retrouver, et je la vois émue comme si elle avait avalé ses ciseaux. C'était à cause de la figure d'un des gueusards qu'elle apercevait à travers la vitre de la porte. « Oh, madame !» me dit-elle tout bas, « on dirait qu'il vient de faire un mauvais coup. Regardez donc l'effrayante figure !» Ben, le fait est qu'il avait un air si horrible qu'on lui aurait pas confié son mari. Ben, ça dépend, répliqua sèchement une voisine qui passait pour n'être pas fort heureuse en ménage. Alors tout à coup, ils découvrirent que nous les observions. Alors la redingote brune frappa sur la table avec son argent pour payer. Oh, je n'eus que le temps de revenir au comptoir, lui rendre la monnaie, et ils filèrent sans saluer, comme des vrais assassins qu'ils sont. Oh, on a bien raison de dire que le manque d'éducation conduit à tout. L'écureuil avait écouté sans mot dire. Croyant le récit terminé, il se retourna pour partir et continuer sa chasse. Alors comme ça, c'est tout, dit une voix. Mais non, je vous ai pas conté le plus beau de l'histoire.
« L'un d'eux est revenu peut-être pour vous demander en mariage ?» demanda un farceur.
« Vous oubliez, je crois, monsieur Caudebec, » fit la limaudière froissée. « Oh, ces gens-là sont capables de tout. »« Continuez !» cria l'auditoire impatient. L'écureuil s'était aussitôt arrêté pour entendre la suite du récit de Madame Rollin. Alors voilà donc que je vois mon garçon planté raide comme l'obélisque devant la table qu'il était venu desservir après leur départ. Alors qu'avez-vous donc, lui dis-je. C'est bien étonnant. Quoi? Ils n'ont pas touché au sucre. En effet, les morceaux de sucre étaient restés intacts sur le plateau. Ainsi que ces messieurs avaient sans doute plus besoin de causer de leurs affaires que de boire, continuai-je. Mais il n'y a plus une goutte d'eau dans la carafe, me répliqua le garçon. Mais ils auront bu l'eau pure, mais les verres sont complètement secs. Pas possible. Alors nous cherchons et nous voyons une énorme mare d'eau sous la table. Le scélérat était venu chez moi uniquement pour se laver les mains.
La propreté n'est pas un défaut, ajouta le mauvais farceur.
L'écureuil n'avait plus rien à apprendre, et se réservant d'appeler plus tard la limonadière pour une confrontation, il partit en continuant son monologue. Voilà deux hardis drôles. Une pariodasse prouve qu'ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Pour sûr, oh, ce sont des pratiques du bagne. Nous possédons à Paris une jolie collection de ces messieurs. Oh, il faudra chercher dans le tas. L'écureuil s'arrêta pensif. Bon, récapitulons un peu nos moyens de reconnaissance. Un petit et un grand. Tous deux des favoris. La fille de la morte a vu la figure de l'un. Quant à l'autre, si elle ne connaît pas ses traits, elle lui a vu une redingote brune. Elle a entendu sa voix quand il a dit « Ferme la porte !» Les concierges ont prétendu qu'il les reconnaîtrait. Oh, cette limonadière et son ouvrière le feront facilement. Donc, en voici assez pour constater l'identité des meurtriers quand j'aurai mis le grappin dessus. Oui, mais quand? Sapristi, quand? L'agent de police fit une pause. Ben, pour si bien s'entendre, ces deux brigands doivent se connaître depuis longtemps, avoir habité les mêmes prisons et ne pas se quitter. Faudra que je cherche dans les couples d'inséparables. Le policier se mit à sourire. Ah, si Aliette voulait parler. Elle en tient pour moi, Aliette. Eh bien, monsieur l'écureuil, ne faites donc pas le beau vainqueur, s'il vous plaît, car vous en avez aussi dans l'aile, mon garçon. Vous en tenez de même. Oui, mais je connais Aliette, elle ne parlera pas. Cette fille-là ne trahit point les gens, même quand ils lui sont odieux. Pauvre fille, oh, je la tirerai du bourbier. Où est-elle en ce moment? Elle s'occupe d'empêcher l'assassinat de deux femmes dont elle m'a parlé. Tant mieux, nous avons assez de l'affaire d'aujourd'hui. Sans Aliette, nous en serions deux sur les bras, et c'est déjà trop d'une. Tiens, j'y pense. Aujourd'hui aussi, on pouvait tuer deux femmes. Car si la fille s'était trouvée là, elle y passait comme la mère. Confiant dans la parole d'Aliette, l'écureuil n'avait pas même le soupçon que ce crime qu'elle devait prévenir peut-être le même que celui dont il venait de voir la victime. Il poursuivit son monologue. Pas de défaut d'Aliette, qui puis-je interroger? Mon auxiliaire Lévy sera bien indiqué tous les forçats empoignés pour la confrontation, mais voilà tout. Il faudrait un renseignement précis qui me mit sur la piste. À qui le demander? L'écureuil s'arrêta tout joyeux. Mais je tiens, mon homme. J'oubliais Miko, cette canaille de Miko. 10 minutes après, le policier atteignait la maison de la rue de Nevers. Miko était chez lui, qui remettait en ordre son mobilier saccagé par le moucheron. Miko avait été fermement résolu à trahir, il avait même commencé quelque peu. Mais depuis que la blonde, liée sur son lit, lui avait échappé, il avait réfléchi qu'en cas de trahison, sa peau ne valait pas cher. Soit qu'on le laissât libre après dénonciation, il avait à craindre le couteau d'un camarade contumace. Soit qu'une condamnation très adoucie à cause de ses révélations l'envoya pour peu de temps sous les verrous, il devait redouter une de ces vengeances de détenus qui, dans les prisons les mieux surveillées, font justice des traîtres. Donc Miko avait réfléchi. Sans positivement refuser ses services à la police, il aimait mieux voir venir les événements que de les appeler. Quand l'agent entra, Miko joua au fin. Il avait malheureusement affaire, en ce cas, bien forte partie. « Mon cher Miko, je viens vous arrêter, » dit brusquement l'écureuil. « Et pourquoi ?» dit Miko, surpris de ce début. « Mais pour tous ces vols dont vous avez fait le récit dans la fameuse cave. Mais vous m'aviez promis, moyennant mes services à la police, qu'on voudrait bien me laisser libre. Oui, mais mes chefs n'ont pas ratifié le traité, de sorte que me voici. Mes hommes sont en bas, qui nous attendent. « Partons alors, » fit Miko, jouant la résignation. Ce n'était pas l'affaire de l'écureuil qui voulait simplement effrayer Miko pour le faire parler. Mais l'agent avait une autre corde à son arc. Il connaissait l'endroit sensible de Miko, rongé par la jalousie. Et, sans avoir le moindre soupçon sur Soufflard, s'il fit entrer son nom dans sa ruse, c'était uniquement pour arriver à obtenir de Miko des révélations sur les meurtriers de la rue du Temple. Il prit un air de pitié. « Allons, en route, » dit-il. « Oh, tenez, Miko, la vraie, je suis désolé de ce qui vous arrive, car vous m'aviez intéressé avec toutes vos histoires d'amour malheureux. Oh, votre remplaçant va avoir la place nette. Je l'ai vu l'autre jour, il doit séduire toutes les femmes avec sa figure douce. Une figure douce, lui, il a une paire de favoris qui lui donne l'air d'un affreux cosaque, un nez entre deux buissons. » Sans savoir pourquoi, l'écureuil fut frappé par ce détail sur Soufflard qu'il n'avait jamais vu. Malgré lui, il insista. « Allô, Miko, vous êtes injuste pour Soufflard. Il est beau garçon et bel homme. »« Bel homme, lui, c'est un criquet, un vrai criquet. Tenez ce que j'appelle un bel homme, c'est le sale, hein, son inséparable. » Quand ils sont ensemble, Soufflard près de lui par un nabo, il a l'air d'un chien qui se dresse sur ses pattes, ce mauvais voleur de redingotes. Ah oui, la redingote vous étouffe encore. Mais pourquoi me l'a-t-il volé? Il n'en possédait sans doute pas. Mais il en avait une toute neuve, une brune, achetée par Aliette. L'écureuil pâlissait en apprenant tous ces détails, qui, sans qu'il les eût demandés, lui arrivait clair, précis et accusateur. En se servant du nom de l'amant d'Aliette, il n'avait voulu que trouver un billet pour arriver à son but, et il voyait les seuls renseignements qu'il eut sur les assassins, répétés par Miko, s'accumuler sur celui qui ne soupçonnait pas. Un des meurtriers était donc l'amant d'Aliette qui devait empêcher le crime, d'Aliette qui peut-être en était complice. Le pauvre amoureux sentait son cœur se serrer à cette pénible pensée. Mais le devoir commandait. L'agent se raidit contre la douleur. Il voulut aller jusqu'au bout, et regardant bien en face Miko. « Tu dois connaître les assassins de la rue du Temple, » dit-il. La haine que portait Miko à Soufflard était si vivace qu'elle lui ôtait toute prudence. En apprenant l'assassinat, la joie de songer que l'échafaud le délivrerait d'un rival l'empêcha de peser ses paroles. Aussi, quand l'écureuil lui dit « Tu dois connaître les assassins de la rue du Temple !» Il s'écria sans réfléchir « Elle a donc été assassinée ?» À 3 heures, continua l'écureuil sans l'avertir de sa faute. Et il ajouta aussitôt « Nomme-moi les meurtriers !» Miko ouvrit la bouche pour dénoncer Soufflard et le sage, mais tout à coup une pensée arrêta les deux noms sur ses lèvres. Il songea que lui-même avait pris part le matin à la première tentative avec le sage, et que ce dernier, pour se venger de sa dénonciation, pouvait si bien lui fourrer le cou dans l'affaire qu'il y laisserait sa tête. Donc Miko resta muet. « Nomme-moi les meurtriers !» répéta l'agent. Miko prit un air étonné. « Mais comment puis-je les connaître » dit-il. Tu connaissais bien le meurtre.
Moi, mais je viens de l'apprendre par vous.
Écoute, Bico, dit sèchement l'écureuil, ne fais pas la bête, mon garçon, tu n'auras pas de foin, ou alors celui que je te donnerai à mâcher serait si dur que tu y laisserais tes dents. Quand je t'ai parlé du crime de la rue du Temple, tu t'es écrié « Elle est donc assassinée ?» Et comment sais-tu que la victime est une femme, puisque je t'en avais rien dit ?« J'avais deviné, » balbutia Miko. « Tu as un talent de divination qui peut te mener loin. » Miko, se voyant pris, était en train de composer avec lui-même. Il cherchait un moyen terme entre sa vengeance et sa sûreté. En ne nommant point le sage, il n'avait pas à craindre ses révélations vengeresses sur la première tentative, et il perdait Soufflard, qui savait incapable de trahir. « Te décides-tu à avouer que tu connaissais le crime ?» répéta l'écureuil. « Mais, fit Miko, vous en avez entendu dire quelques mots, dans le temps, comme d'un projet en l'air. »« Par qui ?» Miko hésita un peu. L'un n'osait dire le nom, l'autre redoutait de l'entendre, car c'était la preuve de la trahison d'Aliette. L'écureuil s'arma de courage. « Par qui ? » répéta-t-il. « Ben par Soufflard, » confessa Miko. Après la révélation de Miko, l'écureuil était parti pour cacher son trouble dénonciateur. La nuit tombait quand il sortit de la rue de Nevers, et tout en gagnant la préfecture de police, l'amoureux et infortuné policier ne cessa de se répéter « Misérable Aliette, mais comme elle s'est jouée de moi ! Oh, je me vengerai !» Le crime de la rue du Temple, colporté par tous les habitants du marché, prenait un tel retentissement que la police décida d'agir vite et vigoureusement. Les noms de Soufflard et le Sage, révélés par l'écureuil à ses chefs, empêchèrent toute fausse piste. La prudence de Miko n'avait pu préserver le sage, car l'écureuil, outre ce qu'il savait de la camaraderie de Soufflard et de le sage, se rappelait le jour où, déguisé en ouvrier gainé et aidé de Lévy, il avait filé le sage jusqu'au cabaret, où ce dernier avait avoué qu'il était dans une telle débine qu'il buterait un homme pour 100 sous. Dans la nuit, une trentaine de forçats libérés, qu'on savait avoir des relations avec les deux assassins et pouvoir les avertir, furent écroués à la force. Le meunier, Calmel, le pendu et le viel étaient du nombre. Le plus ardent dans cette chasse à l'homme était l'écureuil, et pourtant, tout en se répétant « Je me vengerai », il avait commencé ses poursuites par le sage. Tout bas, bien en lui-même, il espérait que la belle Aliette aurait le temps de fuir. L'agent avait pensé qu'il surprendrait le sage chez sa sœur Volard, et à 2 heures du matin, escorté de son fidèle Lévy et de 2 aides, il arrivait au domicile de la marchande à la toilette. Au fond de la cour d'une masure, l'horrible vieille occupait une écurie qui lui servait de boutique. D'infectes haillons pendaient sur des cordes où se dressèrent un tas dont la Volard avait fait son lit. L'écureuil disposa ses agents de chaque côté de la porte, puis il frappa. La vieille avait le sommeil léger. « Qui est là ? » demanda-t-elle. « Fanandel en mauresque !» répondit l'agent, ami en danger. La Volard eut à peine entrouvert que les agents se précipitèrent sur elle et lui mirent les menottes. C'était une femme à décision prompte et hardie devant le danger. Elle comprit aussitôt la gravité de sa position. Elle se mit pourtant à rire. « Eh bien, messieurs, s'écria-t-elle, qu'est donc devenue cette vieille galanterie française pour se permettre ainsi de se jeter sur une dame en toilette de nuit ?» Sans lui répondre, l'écureuil, à l'aide d'une lanterne, n'eut pas de longues recherches à faire pour s'assurer que le sage n'était pas dans le taudis. « Est-ce que vous voulez m'acheter quelque chose ? Oh, j'ai justement là un pantalon qui vous coifferait comme un gant, mon bel homme. cria la volard en le voyant fureter. « Veux-tu répondre ?» lui demanda l'agent. « Oui, si c'est à des demandes morales. »« Où est ton frère ?»«
Quel frère ? J'ai donc un frère ?»«
Parbleu, le sage !» La volard prit une figure indignée. « Le sale, oh, je renie pour mon frère, un misérable qui a déshonoré la famille en se faisant condamner pour des indélicatesses. Le jour où il a mis le pied dans une prison, je me suis dit, il est mort pour moi. Et voilà 15 ans que je n'ai pas vu ce gueux qui a préféré voler au lieu de travailler pour soutenir sa sœur, rester veuve avec un fils. À propos, mais où est-il donc ton fils ?» demanda le policier. Car M. Alfred avait trouvé bon de découcher. « Mon fils suit son traitement, » répondit la volard avec aplomb. « Quel traitement ? Comme il a des migraines, le docteur lui a recommandé de se promener la nuit, parce que l'air est plus pur. » Les quatre policiers se mirent à rire. « Oui, riez, mais bon messieurs, c'est bien risible l'angoisse d'une pauvre mère. » qui voit dépérir un enfant qu'elle avait dressé au travail et à la vertu. » Assez plaisanté, la vieille, dit sèchement l'écureuil. Nous cherchons ton frère pour l'arrêter. Et qu'a-t-il fait encore, le gueux ? Il a tué une femme. Par amour ? Demanda la volard avec une si étonnante naïveté que tout autre que l'écureuil en aurait cru. Pour la voler, répondit Lévi. La vieille fut belle d'indignation et de désespoir. Elle leva au ciel ses mains liées en secouant sa tête grise. « Voler, encore voler ! Est-il donc bien possible que le fils de mon père ait oublié tous les bons exemples de sa jeunesse ? Oh, j'ai trop vécu, j'en mourrai de honte !» L'écureuil mit fin à toutes ces jérémiades de vertu. « Tu sais, ma vieille, que nous ne donnons pas dans tous ces boniments-là. Nous te demandons que de nous dire où est ton frère. Si pour répondre il te faut réfléchir, prends ton temps pendant que nous allons faire une perquisition dans ton chenil. Cherchez, mes bons messieurs, vous ne trouverez ici que d'honnêtes marchandises, car Dieu merci, la volard est assez connue sur la place pour sa probité. » Les quatre agents se mirent à secouer, tâter, fouiller une à une les guenilles puantes que la mégère appelait ses honnêtes marchandises. Et elle les suivait d'un œil tranquille, se contentant de répéter de loin en loin. « Oh, est-il possible qu'une femme vertueuse, une commerçante honorable, soit ainsi traitée ?» Tout à coup, la volard bondit sur l'écureuil et de ses mains liées, tenta de lui arracher un vieux bas qu'il venait de prendre dans un coin. Deux policiers la maintinrent. « Ah !» fit l'écureuil en riant. « Il paraît, mon honorable commerçante, que j'ai mis la main sur le poteau rose. » La volard grinça des dents sans répondre. Sous les doigts de l'écureuil qui froissait le bas, on entendit un bruissement. Il en retira un papier qu'il ouvrit. « L'engagement d'une redingote, dit-il. Celle de mon pauvre défunt. » Eh bien, depuis 11 ans que tu es veuve, tu as mis le temps pour te séparer de cette relique, car l'engagement est daté d'hier, jour du crime. Comment, c'est donc un crime pour une veuve d'engager la redingote de son mari ? S'écria la veuve ayant l'air de ne pas comprendre. Tu continueras tes étonnements avec le juge d'instruction, ma vieille. Moi, je n'ai pas le temps de te répondre, lui dit le policier. La volard ne souffla plus un mot. Il appela les deux aides et leur commanda « Vous allez me conduire cette digne commerçante à Saint-Lazare avec tous les égards dus à sa probité et à sa vertu. » L'écureuil resta seul avec Lévi. « Maintenant, il faut attraper le sage, » lui dit-il. Lévi était d'autant plus ardent à cette poursuite qu'il avait à prendre sa revanche du tour que lui avait joué le sage au tapis franc en le faisant passer pour un faux monnayeur. Ben, nous allons visiter tous les bouches qui lui sont habituelles. » L'écureuil secoua la tête. « À quoi bon une fatigue inutile, dit-il. Nous avons un moyen beaucoup plus simple de pincer notre homme.
Mais lequel ?
Mais l'enfant de la volare a découché.
Celui-là doit savoir où se cache son oncle.
D'un instant à l'autre, il va entrer, et en apprenant que sa mère est arrêtée, il ira en prévenir le sage.
Le gamin te connaît-il ?
Oh non, nullement.
Ben, tiens-toi aux environs.
Et dès qu'il paraîtra, mets-toi à le filet.
10 minutes après, Lévi était à son poste.
L'envie de prendre sa revanche sur le sage lui donna patience et force, car pendant 2 jours, il attendit futilement.
Le boucheron, comme l'avait prévu l'écureuil, était avec le sage qui dépensait dans une cachette le produit du vol.
L'enfant tenait trop à cette vie d'orgie pour quitter la place.
Mais son oncle, anxieux de savoir des nouvelles de son complice et surtout des recherches que pouvait faire la police, l'envoya le 3e jour aux informations chez la volare.
Lévi, de son poste, vit enfin arriver le boucheron aux bouges maternelles. 5 minutes après, le gamin sortait en courant pour aller donner l'alarme à le sage.
Lévi le suivait au pas de course.
1 heure plus tard, sur l'indication de Lévi, le sage était arrêté dans le taudis d'une nommée Bicherel, près du pont Saint-Michel.
En entrant à la force, le sage eut une pensée de salut pour son complice.
« Ah tiens, je vais retrouver ici mon camarade Soufflard, » dit-il à un geôlier.
« Non, ah non, car Soufflard est sorti depuis 5 jours.
« Oh, je le croyais toujours ici. »
Il espérait ainsi faire croire que depuis longtemps il ne s'était vu.
L'écureuil avait assisté à l'écrou de l'usage, et quand il vit la porte se refermer sur le premier des 2 assassins,
« Bon, mais maintenant à l'autre, » dit-il.
Le meurtre de la rue du Temple était de ceux qui secouent l'indifférence ordinaire des Parisiens. Éveillé par la hardiesse de ce crime, commis en plein jour dans un quartier des plus populeux, l'attention publique s'alimentait chaque jour par les nouveaux détails que révélait la poursuite. Dès le lendemain, diverses dépositions arrivèrent en aide aux recherches de la police. La limonadière Rollin vint la première donner le signalement des meurtriers qui avaient passé chez elle 20 minutes après le crime. Un barbier de la rue des Carmes déposa que le 5 juin, à peu près de 4 heures, il avait rasé barbe et favori à 2 hommes dont la figure agitée l'avait vivement impressionné. On entendit Madame Bergeret, la propriétaire du restaurant de la rue Saint-André-des-Arts, qui déclara que le matin du 5 juin, 2 femmes et 2 hommes, à mine suspecte, avaient déjeuné chez elle. Ces différents témoins, confrontés avec le sage, le reconnurent aussitôt pour l'un des 2 hommes. On appela les époux Poitevin, concierge du numéro 91 de la rue des Temples, qui attestèrent que le sage était bien de ceux qu'ils avaient vus descendre l'escalier à la hâte. Pourtant, nous devons dire que la déposition de Madame Bergeret fit un instant hésiter la police. Le signalement qu'elle donnait des 2 convives qui avaient déjeuné le matin chez elle concordait bien pour le sage avec les autres dépositions, mais il défierait complètement ce qui regardait le second individu. Tous les témoins avaient indiqué le second coupable comme très brun de cheveux, et Madame Bergeret le dépeignait au contraire du plus beau roux. Nos lecteurs doivent se rappeler que c'était Miko qui avait pris part à ce déjeuner avec le sage, auquel Aliette était venue annoncer la prétendue arrestation de Soufflard, ce qui avait décidé le sage à entreprendre la première tentative que l'hésitation de Miko avait fait manquer. La justice hésita un instant devant ces dépositions contradictoires. Mais l'écureuil l'a remis sur la voie, et comme dans le gaillard au poil roux, il avait reconnu Miko, il reprit, sans rien dire, le chemin de la rue de Nevers pour aller bien définitivement arrêter celui-ci. Il trouva le logis vide. Conseillé par la jalousie, Miko Dans un moment de rage, j'avais dénoncé Soufflard. Mais après le départ du policier, il avait compris qu'il en avait trop et pas assez dit. Trop car il s'exposait à la vengeance de ses compagnons, pas assez parce que la police, voulant en savoir plus, ne lui tiendrait pas compte de ses demi-révélations. Il avait donc pris le bon parti de se cacher pour, suivant son expression habituelle, voir venir les événements. Il s'était réfugié chez sa nouvelle maîtresse, une fille Ramelais, qui exerçait la profession d'empailleuse d'oiseaux. En voyant son amant refuser obstinément de sortir, au moment où elle entendait répéter partout qu'on cherchait le second meurtrier de la femme du temple, la femme Ramelais conçut des soupçons et s'effraya. Aussi, le troisième jour, à la suite d'une discussion à propos d'un paquet d'arsenic qu'elle disait lui avoir été pris par Miko, elle sortit et alla le dénoncer à la préfecture. Une heure après, l'écureuil venait chercher à domicile son cher Miko, qu'il croyait perdu, et lui faisait même la politesse de lui offrir un fiacre pour aller à la préfecture. « Satanée femme !» hurla Mirko. Dès qu'il sentit s'ébranler la voiture ou bien ficelée, il était enfermé avec l'écureuil à son côté et Lévi devant lui. « Jurez, jurez, mon bon monsieur Miko, cela soulage, » lui disait le écureuil. « Être ainsi trahi par cette damnée empailleuse. Mais aussi, pourquoi vous avisez-vous d'aller lui prendre ce paquet d'arsenic si nécessaire à son métier ?» C'est pas vrai, je n'ai rien pris. C'est une querelle d'Allemand qu'elle m'a cherché pour avoir un motif de me vendre. 1000 millions de potence. Jurez, jurez, cher ami, je vous le répète, cela soulage. Vous n'en trouverez que plus vite votre sang-froid, et alors, nous causerons. Ce mot fit dresser l'oreille à Miko. Sa position n'était pas des plus désespérées, puisque la police avait encore besoin de lui. Il se tint muet dans son coin. « Eh bien, cela va-t-il pas mieux, cher monsieur Miko, sommes-nous calmes ?» demanda l'écureuil. « Pour bien prendre son parti, bon, c'est agir en sage. »« Après tout, qu'est-ce que je risque? Tout au plus 5 ans de longe pour 3 ou 4 mauvais petits vols ?» Et encore, vous m'avez promis votre protection quand nous avons causé ensemble sur le compte de mes amis. Ah, entendons-nous, s'écria l'écureuil. Entendons-nous, cher monsieur Miko. Je vous ai promis l'indulgence du tribunal. Oui, c'est vrai, mais alors je ne connaissais pas tout votre haut mérite. Miko eut froid dans le dos. Il sentait venir un danger. Oui, poursuivit l'écureuil. Je m'étais engagé à vous faire adoucir une condamnation au fer, mais de là à la guillotine, il y a loin. La guillotine, balbutia Miko frémissant. Oh, vous m'avez pris en traite, farceur. En me faisant vous promettre l'indulgence, reprit l'écureuil, qui s'amusait de la terreur de Miko. Mais je ne... Oh oui, à vous entendre, ce n'était que des peccadilles. Vous avez manqué de franchise avec moi, car j'aurais réfléchi avant de m'engager avec vous si vous m'aviez de suite prévenu qu'il s'agissait de guillotine. Miko, les yeux effrayés, regardait le policier qui lui parlait avec son visage le plus souriant. « Mais que me reprochez-vous donc ?» L'écureuil éclata de rire. « Ah, regarde donc, Lévi, quel charmant comédien que ce cher Miko !» Mais comme il a bien l'air naïf en demandant ce qu'on lui reproche. Pensez que je m'y suis laissé prendre quand il a inventé que Soufflard était l'assassin de la rue du Temple. Oh, je vous avais cru. Mais c'est la vérité. Tout le monde n'est pas de cet avis-là, fit l'écureuil en secouant la tête. Qui donc ? Balbutia Miko. « Mais il y a une dame bergeret, tenant un restaurant rue Saint-André-des-Arts, qui prétend que les coupables sont venus déjeuner chez elle le matin du crime,
Et elle donne le signalement d'un certain Rougeau, qui m'a l'air d'être de vos connaissances intimes, brave ami. Oh, cette femme se trompe. Je le croyais aussi, mais comme elle a positivement reconnu le sage pour une de ses pratiques, nous sommes fondés à croire qu'elle dit vrai pour l'autre. « Mais je ne suis pas coupable !» cria Miko. Tiens, c'est donc vous le Rougeau en question ? Oh, les vite témoins que monsieur s'est reconnu. Mais on peut interroger le sale, dit Miko, qui, se sentant embourbé, se raccrochait à tout. L'écureuil secoua tristement la tête. Mais c'est ce qu'on fait. Et ? Demanda Miko, haletant d'anxiété. Et le sage a presque avoué que le Rougeau est son complice. Miko s'affaissa de terreur dans le coin de la voiture. « Je suis perdu, » dit-il. « Oh, je vous disais bien, mon bon, qu'il y a de la guillotine dans votre bagage. » L'écureuil inventait que le sage avait dénoncé Miko, mais il voulait amener ce dernier, vaincu par la terreur, à lui dénoncer les divers logements de soufflard qu'on cherchait inutilement depuis le crime. Miko reprit peu à peu son calme. « Vous ne saurez m'accuser longtemps, » dit-il. « J'aime vous voir cette confiance, bien que je cherche vainement ce qui peut la justifier, » répliqua l'écureuil. « Mais on finira par pincer soufflard, » l'écureuil affecta l'air surpris. « Vous persistez donc, » dit-il. « À quoi ?» À soutenir que c'est soufflard. Mais c'est lui, rien que lui, cria Miko. L'écureuil haussa les épaules. Soit, dit-il, je dirai comme vous pour vous faire plaisir. Mais il était à peu près prouvé que soufflard avait quitté Paris la veille du crime. Bon, on a mal cherché. Mais on ne l'a pas trouvé rue de Seine. Cette adresse indiquée par vous. Ben alors, il fallait aller. Où donc ? Dit vivement l'écureuil. La vivacité avec laquelle le policier adressa cette question lui fit manquer son but. Miko comprit aussitôt que la conversation qu'il avait tant effrayée n'avait d'autre raison que de lui arracher le secret des logis de soufflard. Comme, après tout, il se sentait dans de vilains draps, il voulut profiter de ce mince avantage pour rendre sa position meilleure. Aussi, quand le fiacre s'arrêta dans la cour de la préfecture, Miko était déterminé à vendre son secret à de bonnes conditions. « Eh bien, lui dit l'écureuil, où faut-il donc aller chercher soufflard ?» Miko prit à son tour un ton goguenard. « Oh, j'ai si peu de mémoire que pour trouver cette adresse, j'ai besoin de me recueillir. »« Oh, comme cela se trouve, cher monsieur Miko, l'ordre a été donné de vous mettre au secret le plus sévère. Vous allez être bien à votre aise pour réfléchir, » dit l'écureuil, comprenant que son homme prenait sa revanche. Puis, se penchant à l'oreille de son auxiliaire Lévi, il ajouta « Dis au geôlier qu'on lui donne l'agrément. C'est une poule qu'il faut forcer à pondre. Il nous faut maintenant retourner à Aliette que nous avons laissée évanouie au pied de soufflard qui venait de lui annoncer l'assassinat de la marchande. Elle ne tarda pas à reprendre ses sens. Fille d'énergie avant tout, la blonde, cachant au fond de son cœur la douleur que lui causait son involontaire parjure à l'écureuil, songea tout d'abord, bien qu'il lui inspirât une profonde horreur, à sauver celui qui avait été son compagnon. « As-tu été vu ?» lui demanda-t-elle. « Bon, ceux qui peuvent m'avoir vu ne me reconnaîtront pas après ma barbe coupée, » répondit soufflard en vidant sur la cheminée ses poches pleines d'argent volé. « Es-tu bien sûr ? La fille de la femme m'a seulement vu de dos dans l'escalier. Ainsi je... »
souffla, s'arrêta au milieu de sa phrase. « Oui, j'ai changé ma figure, mais on peut avoir le signalement de mes vêtements. Bon, je dois aller en acheter d'autres. »
Impossible, à cette heure, le crime est connu. Ce serait donner l'éveil à quelques marchands qui nous lanceraient la police aux trousses.
Ben, je ne puis pas garder cette redingote ensanglantée. Il faut la faire disparaître et la remplacer.
Mais j'ai conservé la reconnaissance de celle de Miko. Nous la dégagerons du monde piété.
Chut ! Fit tout à coup Soufflard. On monte l'escalier. Chez les gens qui, comme ce dernier, se trouvent sous le coup d'une profonde terreur d'être pris, tous les sens acquièrent une extrême sensibilité. Depuis le crime commis, le bandit éprouvait cette crainte de tous les instants. Aussi, il entendit le pas léger de celui qui montait l'escalier. On gratta à la porte en même temps qu'une voix souffla « Le moucheron !» Soufflard courut vite ouvrir.
« Je viens vous dire de la part de l'oncle que c'est pas le vrai moment d'aller vous promener aux Tuileries. La Michel, en passant tout à l'heure devant la préfectance, a vu tout un troupeau de rousses qui partaient, le nez au vent. Filez, il n'est que temps. »
Aliette avait un peu réfléchi. « Dis donc, môme, veux-tu jouer les jambes pour nous ?»«
Oh, tout de suite !»
Elle lui présenta de l'argent et une reconnaissance.
« Tu vas courir au bord de la rue de la Harpe et nous apporter la redingote de Miko. »
À ces mots, la figure du gamin s'illumina tout à coup d'un rapide éclair de contentement. Il sauta sur le papier et disparut dans l'escalier en disant « Oh, dans 10 minutes, je vous l'apporte !» Aliette fit les paquets à la hâte pendant que Soufflard descendait chez le maître du garni, payait le loyer et annonçait son départ. Puis ils attendirent le moucheron.
Il avait demandé 10 minutes et il y a déjà plus d'une demi-heure, dit Soufflard, prenant d'impatience de quitter ce logis où la police, instruite par quelques révélations, pouvait venir le relancer.
Enfin, le moucheron arriva.
Figurez-vous, dit-il, que ces imbéciles du monde l'avaient déchiré. J'ai été obligé d'aller la faire recoudre chez un portier tailleur du voisinage.
Soufflard endossa vite cette redingote faite d'une étoffe qu'on appelait à cette époque « tête de nègre ».
« Il faut brûler l'autre, dit-il. »« De quoi brûler ? » fit le gamin. « Donnez-la à moi, j'offrirai en cadeau à maman. »« À maman volard, qui en fera ses choux-rats. »
« Non, dit Aliette, ce vêtement peut nous compromettre, nous devons l'anéantir. »«
Soufflard a raison, il faut la brûler. » Avec ça que vous avez le temps de moisir ici, est-ce que vous croyez que la police va vous y laisser mourir de vieillesse ? Demanda le gamin.
Oui, partons, dit Soufflard impatient. Aliette hésitait encore. Le moucheron lui prit le vêtement des mains.
Mais quand je vous dis que maman Volard s'en charge, laissez-la donc, madame Aliette.
« Partons, partons !» répéta Soufflard agité par la crainte qui ne le quittait plus.
« Dis bien à ta mère qu'elle lave le sang qui couvre les revers. »« Soyez donc tranquille, hein, dès ce soir elle sera propre comme l'œil, et la mère l'aura vendue à un prêtre. »«
Alors, en route, » fit la Liette. Soufflard s'élança dans l'escalier. Aliette le suivait pâle et résigné. Après avoir eu un instant l'espoir de sortir du bourbier, elle comprenait que maintenant elle glissait sur la dernière pente. Elle se perdait volontairement pour chercher à soustraire à l'échafaud la tête de son compagnon. La redingote roulait sous le bras, le moucheron les suivait en arrêtant un regard moqueur sur le vêtement de Miko que Soufflard avait endossé. 20 minutes après, Aliette et Soufflard étaient réfugiés dans un garni de la rue d'Orléans à Mircel. Pour la première fois, l'assassin eut un moment de trêve à ses angoisses.
« N'y viendront pas nous chercher ici, Tous ces chiens damnés de police ! S'écria-t-il.
Qui sait ? Murmura Aliette, en pensant à l'écureuil que, malgré l'amour qui la mordait au cœur, elle redoutait de voir arriver. De son côté, le moucheron avait couru chez sa mère.
Le redingote, un soufflard, dont la couleur craint l'air, lui dit-il, à rien exposé, elle peut s'abîmer.
La volard prit le vêtement et le palpa. Ses doigts sentirent la raideur que donnait au revers le sang desséché. Elle comprit aussitôt.
Joliment défraîchi, mais ce soufflard est un vrai massacreur de toilettes.
Il faut la faire circuler, dit Alfred.
Oh, sois tranquille, enfant, je vais d'abord la déraidir de son emploi.
Et en prenant une croûte de pain dur, la vieille, s'en servant comme d'une râpe, en frotta l'étoffe dont s'échappa une poussière rouge.
Maintenant, dit-elle, comme j'attends la visite de la rousse d'un instant à l'autre, je crois qu'elle sera jamais mieux cachée qu'au clou.
Ah, jolie idée, dit le moucheron. Viens-tu avec moi, petit ?
Zut ! Fit le fils respectueux.
Plus souvent que je vais m'accrocher à ton jupon quand il y a des saucisses du pivois et tout le tremblement à déguster avec l'oncle.
Et le gamin prit sa course pour rejoindre le sage que, 3 jours plus tard, il devait involontairement livrer en entraînant les vies à sa suite. En revenant du Mont-de-Piété, la volard eut la pensée de brûler la reconnaissance.
Ben, « Ma foi non, se dit-elle. Dans 6 mois, les rousses ne nous éboîteront plus avec leur niaiserie de la rue du Temple. Ils fermeront l'œil et je trouverai à la vendre. »
Elle fourra le papier dans un vieux bac et l'enfouit sous le tas de loques qui servait de lit.
« Mieux pas chercher là, se dit-elle. »
Puis elle s'étendit sur un amas de puantes guenilles en ajoutant
« Bonne nuit, ma petite volard !»
Le lecteur a vu qu'elle fut au réveil et combien elle avait eu tort de compter sans la finesse et le zèle de l'écureuil qui avait déniché le bas contenant la reconnaissance.